Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Solway et Coagula.
Magic is political. Magic is social. Magic is cultural. Magic is pretty much everything. This is the alchemical formula of Solway et Coagula.
La mer, le soleil et les vieilles pierres. Et la musique aussi, et la rue et les tavernes. Et au milieu de tout ça, Emma et son micro. Et Emma, tu es avec nous aujourd'hui en cette 8e journée de la radio consacrée au paysage pour nous faire le récit de ce voyage sonore au pays de Minos et de Pasiphae. Bonjour Emma.
Bonjour Occitane.
Et pour nous accompagner, Thomas et moi, dans ce périple musical en Grèce, nous sommes également aux côtés d'Antoine. Salut Antoine.
Bonjour.
Et sans plus attendre, commençons avec un premier son que tu nous as ramené de tes pérégrinations helléniques, Emma.
Rendez-vous à la station Agios Eleftherios. Dans une petite salle en face de l'église, le chantre transmet son savoir aux nouvelles générations. J'assiste à son cours, discrètement, pendant que le vent frappe à notre porte.
Oh.
Ses voix embaument chaque parcelle de l'édifice et se répandent dans la rue. D'abord intimidante, puis envoûtante. Tous les dimanches, Athènes s'en imprègne.
Du coup, là, Emma, on écoutait un extrait que tu as recueilli du coup en Grèce pendant ton voyage, un chant, voilà, donc un souvenir finalement sonore de ce voyage-là. Du coup, quelle place y prend ces chants-là, quelle place y prennent dans ton voyage à ce moment-là, cette aventure que tu as menée avec ces chants?
Alors, j'ai enregistré ces sons à Athènes, au tout début de mon voyage. Et cet extrait, c'est un montage de trois enregistrements qui sont en fait trois ambiances sonores captées à différents moments de la journée, d'une même journée, et qui s'enchaînent comme je les ai vécues, donc chronologiquement. Et cette journée était un peu particulière parce que j'ai eu la chance d'assister à un cours de chant byzantin, complètement par hasard, grâce à une musicienne et chanteuse française que j'avais rencontrée la veille, et dont le contact m'avait été donné par d'autres musiciens français que j'avais rencontrés à Athènes 2 jours plus tôt dans la rue, complètement par hasard aussi. Et elle m'a proposé d'assister à son cours de chant byzantin et ensuite de venir écouter son prof chanter dans l'église orthodoxe d'à côté. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué dans mon voyage, déjà parce que c'est un moment imprévu, puis je ne connaissais pas du tout cette musique. Et puis parce que ça m'a permis justement de découvrir la musique ecclésiastique byzantine, qui est quand même quelque chose d'assez surprenant et de très beau. Et dans cet extrait, j'ai voulu rendre compte justement de ma découverte de cette musique en essayant de l'aborder de deux manières, sachant que ça principalement et initialement était une découverte sensible et auditive avant tout, avant que je me mette à creuser et puis à faire des recherches plus théoriques. Et parce que d'abord, il faut savoir que cette musique... Elle comprend un système de notation qui est très particulier et qui, contrairement à la différence des notes occidentales qui sont fixées sur une portée, là c'est un système de notation qui est constitué de neumes et qui indique simplement des variations de hauteur. Ce qui fait que visuellement la partition byzantine est très belle. Alors c'est dommage, on la voit pas, mais on l'entend. Et donc il y a une grande importance accordée à l'interprétation. Car justement, l'ossature de la partition est pleine de variations, d'énergies différentes qui se transmettent simplement de l'enseignant, donc du chantre, du maître, aux élèves. Et donc c'est la question de l'apprentissage qui est très importante dans cette musique que je voulais aussi montrer dans cet extrait. Voilà, avec ce chantre et ses élèves en plein cours de solfège. Donc voilà, l'importance de la voix et cette idée de transmission. Après oui, d'un point de vue culturel... et sociale, c'est un son important car pour moi, la musique ecclésiastique byzantine fait vraiment partie et s'inscrit dans la tradition de l'église orthodoxe grecque et c'est un son qu'on entend régulièrement à Athènes, tous les dimanches, même dans les villages à côté, donc voilà, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Après, dans le montage, j'aimais bien aussi qu'on passe d'une ambiance sonore de marché, donc c'était un samedi matin dans un marché à Exarchia, qui est un quartier d'Athènes. Et là, c'était la grosse agitation, le Capharnaüm, ça criait dans tous les sens, avec une scène de cours de chant où là, beaucoup plus calme, et enfin ces voix un peu hypnotisantes dans l'église orthodoxe juste après.
Voilà. Alors, peut-être avant, Emma, de revenir plus spécifiquement sur ta méthode de travail. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'intention plus générale qui a motivé ton voyage et ce qui t'a amené à faire cette expérience musicale en voyageant?
Oui, alors j'avais depuis longtemps le désir de faire une année de césure déjà et de profiter d'une partie de cette année de césure pour voyager. Après, ça fait 2-3 ans que je m'intéresse un peu aux musiques des Balkans et plus spécifiquement d'abord à la musique polyphonique bulgare. Mais je connaissais pas du tout la musique grecque et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller en Grèce. Après, l'idée de l'enregistrement est venue assez logiquement, même si au départ c'était très flou. À la base, j'avais simplement l'intention de rencontrer des musiciens et des chanteurs, et certes, peut-être de les enregistrer, mais rapidement avec mon portable, histoire de me souvenir des chansons et puis pouvoir les apprendre par la suite. Puis après, comme je m'intéresse un petit peu à la radio, au podcast, etc., l'idée de la prise de son est venue. ça a commencé à germer et je me suis dit qu'effectivement, si je rencontrais des musiciens et des chanteurs, il valait peut-être mieux que je revienne avec des souvenirs sonores plutôt qu'avec des photos. Et qu'en plus, ça serait chouette que ces souvenirs sonores soient de qualité, bien enregistrés. Donc je me suis procuré un Zoom. C'est la première fois que j'utilisais un enregistreur. Et donc il a fallu rapidement apprendre à le manipuler une semaine avant de partir. Et c'est là que vraiment l'idée de cartographie musicale et sonore a commencé à s'affirmer, l'idée de carnet de voyage sonore. Et que je me suis dit aussi que j'allais peut-être en profiter pour tout enregistrer, les bruits, les silences, dans les auberges de jeunesse, dans les églises, ou peut-être même les discussions avec les gens que j'allais rencontrer. Voilà. Mais en fait, l'idée de l'apprentissage de la musique, ça a été plus un prétexte et une intention qu'un cadre pour ce projet-là. Voilà.
Et cette méthode, cette espèce de recherche de son, mais un petit peu au hasard, un petit peu au gré de tes pérégrinations, qu'est-ce que ça a changé dans ta perception, dans ton rapport à cet espace que tu as visité, à ce paysage, puisque c'est le thème aujourd'hui?
Alors, oui, il y a beaucoup de choses, parce que... Oui, donc il faut savoir que je n'avais rien anticipé, déjà. Je suis partie à Athènes sans vraiment savoir ce que j'allais trouver sur place. Je savais presque même pas ce que c'était que le rebetiko.
Peut-être que tu peux d'ailleurs expliquer ce que c'est.
Ouais, ou peut-être. Enfin, bon, j'en reparlerai de toute façon plus longuement par la suite. Mais le rebetiko, c'est la musique populaire la plus répandue en Grèce. C'est une musique traditionnelle qui s'est répandue au début des années 20. Donc voilà, oui, j'avais rien anticipé. Après, c'était volontaire. Je voulais aussi me laisser la liberté d'improviser, etc. Après, ça a changé beaucoup de choses sur ma perception, dans la mesure où déjà le fait d'enregistrer des sons, ça te fait développer une conscience d'écoute que certes tu as quand tu voyages, parce que forcément quand tu quittes ta zone de confort, quand tu es en territoire inconnu, peut-être que tes sens sont plus développés, en tout cas quand tu voyages seul, ce qui était mon cas. Après, le fait de les enregistrer, ça demande une implication physique. Et visible aussi, parce que je me baladais tout le temps avec mon Zoom, et forcément, ça suscitait la curiosité des gens qui me demandaient souvent ce que je faisais. Et donc, ça provoquait des rencontres aussi. Après, tu casses aussi un peu la figure du touriste qui voyage avec son appareil photo. Et voilà. Donc, effectivement, là, maintenant, quand je pense à Athènes et à mon voyage, j'entends des sons plus que je ne visualise des images.
Et en parlant de ces sons que tu entends, on va écouter tout de suite une deuxième petite pièce que tu nous as ramenée. Thank you.
Oui, alors ça c'est un extrait d'une musique plutôt d'Asie mineure que j'ai entendue dans la rue à mon arrivée le premier jour, et jouée par un joueur de saz turc. Donc il ne s'agit pas de musique grecque à proprement parler, mais la musique grecque est très influencée par la partie orientale de la Méditerranée. Et puis j'aimais bien cet extrait parce que je le trouvais assez représentatif de l'ambiance sonore athénienne. Car c'est une ville très bruyante, pleine de travaux, pleine de passants. Et donc j'aimais qu'on ait aussi ces bruits de, voilà, justement de passants, ce martèlement, mêlé à ces tonalités plus mélancoliques et orientales qui sont très constitutives de l'identité grecque. Après, j'ai fait aussi un travail de montage et de reconstitution d'une ambiance, parce que bon, si j'ai pas certes anticipé avant de voyager, j'ai quand même fait un travail après, a posteriori, une fois rentrée, à l'écoute de tous ces sons, où là c'est vraiment là qu'il a fallu poser une réflexion aussi sur tous ces sons-là, donner un cadre, une intention, et puis déjà un format. Donc moi je me suis arrêtée sur l'idée de faire aussi plusieurs extraits qui seraient des échantillons de mon voyage, des échantillons sonores, plutôt qu'un long documentaire comme j'avais initialement vaguement imaginé, voilà. Et donc c'est après que j'ai commencé à trier, à organiser, à mixer, à monter, etc. Et voilà, et parfois recomposer des environnements sonores. Là c'est un peu le cas avec cet extrait-là, mais ça a été aussi beaucoup le cas avec l'extrait qu'on a entendu avant, où la scène de marché, pour moi, n'était pas assez représentative. Elle n'était pas vraiment conforme à ce que j'avais vécu sur le moment. Je trouvais que ça ne traduisait pas assez l'agitation ambiante que j'avais vécue, cette idée de Capharnaüm. Du coup, j'ai coupé l'enregistrement en deux. J'ai pris la deuxième partie, je l'ai superposée sur la première, et puis je l'ai accélérée vers la fin pour donner voilà, une impression de bordel, quoi.
Parce que cette musique-là, avec laquelle tu es revenue, comme en témoigne cet extrait, on a l'impression que tu l'as entendue dans des lieux qui n'étaient pas nécessairement dédiés, qui n'étaient pas nécessairement institutionnalisés comme lieux de musique, comme on aurait peut-être l'habitude ici. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ces lieux dans lesquels tu as entendu?
Oui, alors c'est ça qui est génial en Grèce et à Athènes particulièrement, c'est que la musique est absolument partout. La musique traditionnelle notamment, et il y a d'ailleurs beaucoup de rebetiko, alors dans la rue certes, mais aussi beaucoup dans les bars, dans les restaurants, dans les tavernes, et il y a une application d'ailleurs qui répertorie tous les concerts de rebetiko tous les jours dans la ville, qui s'appelle Aptaliko, et ça pareil, c'est un musicien dans la rue qui m'a vu avec mon enregistreur et qui m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» et il m'a dit « bah tiens, cette application Aptaliko, elle pourrait te servir, alors va voir. » Et voilà, donc il y a ça tout le temps, partout, et même à la radio d'ailleurs, ça c'est particulier, et ça fait partie des sons que j'ai enregistrés, par exemple quand je suis allée en Crète, où pour le coup je n'ai rencontré aucun musicien, il n'y avait aucun bar ouvert, parce qu'il faisait pas beau, enfin bref, et du coup j'ai été amenée à prendre la voiture, en Crète, beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter la radio et j'ai réalisé qu'il y avait énormément de musique traditionnelle et beaucoup de rebetiko justement à la radio. Et là, j'ai enregistré de la musique de radio dans la voiture et c'était aussi très intéressant comme après à l'écoute. Voilà.
Et à cet égard, peut-être qu'il y a des sons qui t'ont marqué ou justement des lieux inattendus dont tu aimerais parler?
Oui. Bah, justement aussi pour parler du rebetiko, les lieux de bar m'ont marqué a posteriori, encore une fois. En fait, pour expliquer un petit peu, tu me demandais tout à l'heure ce que c'était que le rebetiko. Le rebetiko, donc, c'est une musique apparue dans les années 20, principalement dans le port de Pirée et à Thessalonique, à la suite des Grecs expulsés, enfin à la suite de l'expulsion des Grecs de Turquie. Voilà, et donc ça naît de la rencontre de ces émigrés avec les émigrés eux venus des îles vers Athènes, donc les uns très pauvres et les autres venant avec leurs influences orientales. Et donc en fait le rebetiko, on dit que c'est le blues grec. Donc c'est une musique, voilà, des bas-fonds, des déracinés, et il y a plusieurs courants successifs du rebetiko, mais principalement, ces chansons, elles parlent d'exil, de nostalgie, de misère sociale, de pauvreté, etc. D'ailleurs, le contenu des chansons a été sanctionné par la dictature militaire grecque dans les années 30. Et du coup, il y a des musiciens qui ont été déportés dans les îles de la mer Égée. Enfin, bref. Mais malgré en fait, le fait que ce soit une musique inscrite dans une époque très précise, la tradition, elle ne s'est pas figée. Et c'est une musique qui reste très écoutée aujourd'hui, qui est encore très, très vivante. Et on dit que depuis la crise, les jeunes se sont réintéressés aux rebeticos, parce qu'ils se sont intéressés à leur patrimoine. Et donc, on apprend cette musique dans les écoles de musique, en conservatoire, et les bars à rebetico restent très fréquentés. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que c'était très intéressant à enregistrer depuis ma place de spectatrice, d'être dans ces bars et dans ces tavernes, et de voir qu'autour de moi, absolument tout le monde connaissait les paroles des chansons, sans même parfois connaître le titre ou le compositeur, parce que parfois je leur demandais, mais personne ne pouvait me répondre. Et voilà, c'est juste leur culture. Les gens, ils mangent, ils boivent, ils fument avec le rebetico tout le temps. Et donc moi, j'avais donc en fond sonore cette musique-là. Et à côté de moi, le public grec qui chantait à tue-tête avec les musiciens, ces chants qui en plus parlent de pauvreté, de misère. Et donc qui, pour les Grecs aussi, résonnent encore beaucoup aujourd'hui depuis la crise. Et voilà, j'en ai pas eu conscience au moment d'enregistrer ces sons. Je pensais d'ailleurs qu'ils allaient être inexploitables parce qu'on entendait les bruits de couverts, ça criait, ça parlait, ça mangeait. Et puis le son de la musique était amplifié, donc c'était pas top. Et puis en fait, non, ça voulait tout dire parce que c'était le rebetico, mais dans son jus et sorti de son contexte, ça aurait été peut-être moins intéressant.
Et du coup, j'ai l'impression que, enfin, pardon, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on parle d'une musique qui est extrêmement circonscrite dans le temps et l'espace et qui émane finalement d'une époque avec ses propres préoccupations,
ouais.
Et qui finalement parle encore à l'époque aujourd'hui et même qui lui parle énormément puisque c'est devenu quelque chose d'extrêmement ancré, qui devient presque naturel.
Oui, c'est ça, c'est que non seulement les paroles résonnent encore aujourd'hui, mais même rien que le fait de chanter et de danser ses joies et ses peines, c'est un truc qui est très grec. Enfin, j'en ai discuté avec des Grecs qui me disaient oui, c'est peut-être ce qui nous différencie des autres pays européens aussi, c'est qu'on a cette capacité à écouter la musique tout le temps et sur des chansons très mélancoliques et en même temps très libératrices. Voilà. Et il y a un film qui s'appelle Jam de Tony Gatliff qui parle très bien de ça justement. Voilà.
D'ailleurs, dans Jam, si je me souviens bien, ce sont des... C'est l'histoire d'une chanteuse de rebetico,
ouais.
Et qui elle-même a hérité cet art de sa mère. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une place particulière accordée aux chanteuses de rebetico dans ce style de musique.
Exactement, et c'est important de les citer. oui, il y en a beaucoup. Il y a Rosa Eskenazi, il y a Sotiria Bellou, Marie Caninou. Et après, bien sûr, le rebetico n'échappe pas au fait que, comme dans toutes les musiques... La femme a surtout une place de muse, finalement, même si les paroles parlent beaucoup de femmes indépendantes et fortes. Mais oui, oui.
Et à ce propos, on a un petit extrait à vous passer.
Είχανε τα στρακοί κοπέλες με τα σπρά σεριανίζουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατούνε τα ζαριά κι ανταμώνουν στον δρόμο τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού βλεντήσουμε και πάψει ο σαματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Κάνε τα στρακή κοπέλες με τα σπρά σεριανίζουν στην κατολιτονιά.
Κυρία Μαρία, η κόρη μου έχει παράπονη. Τι ανέτα από μένα, τη βγάζει πάντα πρώτη και φυλά στην άλλη για τραξιόν. Έτσι μείναμε σύμφωνοι από την αρχή. Ναι, αλλά όμως τώρα έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε φωνή Αϊντώνη, κυρία Μαρία μου. Δεν είμαστε κοράκια σαν την άλλη. Μπορεί κυρία Ευτέρπη μου, αλλά... Στέλλα Μπαζικός.
Ζήσεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ.
là, nous venons d'entendre un extrait du film Stella, femme libre, de Michael Kakoyanis, qui est un film de 1955, qui est un monument du patrimoine grec, qui est un film grec qui a su transcender les frontières, ce qui arrive assez rarement, et qui est un mélodrame sur les splendeurs et misères d'une chanteuse de Rebetiko qui officie sur le port d'Athènes.
Et alors, en parlant de femmes et de ports, nous allons à présent avoir l'honneur de recevoir par les magies de l'Internet et de la radio une éminente spécialiste du sujet.
Alors, Marie Lécuyer, une femme dans un port, ça attend ou ça chante ?
Écoute, Occitane, une femme dans un port, ça s'occupe, ça s'envoie en l'air, ça travaille dur, mais surtout ça vit.
Alors, les aléas du direct nous ont rattrapés une fois de plus.
Que se passe-t-il ?
Alors, oui. Je ne sais pas exactement ce qui se passe.
Mais... Nous avons un léger problème technique.
Est-ce que c'est bon ?
Είχανε τα στράκι κοπέλες με τα σπρασέρια νίζουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατούνε τα ζαριά κι ανταμώνουν στον δρόμο τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού γλεντήσουμε και πάψει ο σαματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Κάνε τα στρακή κοπέλες με τα σπρασέρια νίζουν στην κατωγητονιά.
Κυρία Μαρία, η κόρη μου έχει παράπονο. Τι ανέτα από μένα, τη βγάζει πάντα πρώτη και φυλά την άλλη για τραξιόν. Έτσι μείναμε σύμφωνοι από την αρχή. Ναι, αλλά όμως τώρα έχουμε κι άλλες προτάσεις. Έχουμε φωνή αηδόνη, κυρία Μαρία μου. Δεν είμαστε κοράκια σαν την άλλη. Μπορεί, κυρία Ευτέρπη μου, αλλά... Στέλλα Μπαζικός.
Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ.
Depuis le Brexit, depuis l'Angleterre qui coule, qui sombre dans les flots.
Marie, on t'a récupéré.
Vous m'avez récupéré.
Tout va bien.
Je vous entends.
Incroyable.
Marie, donc,
c'est incroyable. Merci.
Disons donc, parce que c'est la première journée de la radio à laquelle tu ne pourras pas assister depuis des années, mais tu es là parmi nous pour nous parler des femmes dans les ports, c'est ce que nous disions.
Et je vous remercie de votre invitation.
Ça m'entendez-vous
bien ? On t'entend. À toi, Marie.
Alors, je vais vous demander d'imaginer un petit peu, on va parler de paysages portuaires. Un paysage portuaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un fil ininterrompu de cliquetis. C'est le son du métal qui embrasse le métal, c'est le crissement des courroies qui tournent, c'est les frottements d'un plein troupeau de conteneurs à bord d'un vaisseau lourd, si lourd. Et ce que j'aimerais mener aujourd'hui, c'est notre renoncement à une certaine image du port et de son espace, une image que je qualifierais de romanticisée ou à tout le moins de franchement 19e. Ce n'est pas seulement que les trois mâts ont changé, c'est que dans les ports de commerce du XXIe siècle, tout a changé. Les bruits, le sens des grandeurs et de l'énormité, les couleurs, la place qu'un port prend sur la mer. 1956, un Américain met en branle le tout premier conteneur et la révolution manutentionnaire de notre temps. Et tout le commerce du monde, quasiment, se peut contenir maintenant dans une gigantique brique de Lego coloré. Voilà l'un des visages de la modernité efficace dans un monde où la grâce efficace vient à manquer. Un port de commerce contemporain, c'est un paysage mécanique, et au-delà des puits d'hydrocarbures et des collines de conteneurs, difficile de ne pas reconnaître, comme dans un miroir tendu, notre propre voracité, notre continuelle surconsommation. Les conteneurs passent du navire au camion, du camion au train de fret, et l'on est un peu pris de vertige. Que ferons-nous de cette somme terrible d'objets ? Est-ce que tout ceci est bien désirable ? Un port, c'est un pan entier de territoire qui a été soustrait à l'espace public au nom du capitalisme et de son libre épanouissement. Il n'y a pas si longtemps, au Havre, les gens aimaient à aller admirer les grands paquebots qui vont et viennent. Aujourd'hui, le terminal de croisière, les jours d'escale, est fermé, surveillé, ainsi qu'un tarmac d'aéroport. Le port se replie, comme le fond, le monde se referme. Pourtant, la fascination demeure. Les navires sont d'énormes cyclopes, les Poséidons de notre temps ont pour nom CMA-CGM, Maersk, MSC. Au port de Felixstowe, en Angleterre, où je suis à présent, il est un point de vue d'où l'on peut approcher les immenses grues. On y mène les enfants le dimanche vers midi, et l'on pourrait rester des minutes entières à regarder la surprenante légèreté de l'activité portuaire. Dans le paysage mécanique, les conteneurs volent, légers, soulevés par les filaments métalliques des grues, du sol vers le navire, du navire vers le sol. Paysage portuaire, bien qu'artificiel, est mis en mouvement par des forces organiques, par un réseau invisible de relations humaines. Bien sûr, c'est l'orientation capitaliste de l'histoire que de viser à la désincarnation du paysage. C'est ce vers quoi le capitalisme tend. L'informatisation totalisante du travail, l'éradication de la main-d'œuvre humaine dont la grande injure est d'être salarié, le terminal dans sa forme automatiquement pure. Mais nous n'y sommes pas encore. Reste que le port de commerce de notre époque noue ensemble deux virilités inconciliables, la virilité ouvrière, celle des marins, des dockers, des conducteurs de poids lourds, la virilité de commandement, celle des cadres en cravate et col blanc. Et les femmes ? Qui sont les femmes du port, quand elles ne sont pas les antiques sirènes de la rade ou les putains d'Amsterdam ? Un petit nombre. Négociantes, convoyeuses, matelotes, officières, dockeuses musclées ou douanières intraitables, rappelons-le, les femmes ont toujours travaillé. Je parle à plusieurs de ces femmes. En reflet d'un travail harassant, on lit la possibilité d'une existence autrement constituée, hors de la norme matrimoniale, une émancipation peut-être. Je songe à une timide matelote de 20 ans, embarquée sur un paquebot fluvial. Elle me dit « Moi, quand je ne vois plus de bateau, je suis malheureuse. » Alors, et c'est libérateur, le fil biographique prend la forme du voyage, du roulis, d'une existence choisie et à la mesure de celle qui la vit.
Merci beaucoup Marie pour ton expertise, pour ce moment de poésie et bien sûr pour ta téléprésence en cette 8e journée de la radio.
Et c'est moi qui vous remercie.
Merci Marie, au revoir.
Merci Marie.
Au revoir.
Et après cette petite escale en Angleterre, on revient à ton voyage à toi, Emma. Toi aussi, tu as rencontré une femme et toi aussi, tu as enregistré sa parole, tu as enregistré sa voix. Emma, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Anatoly Margiola ?
Oui, alors Anatoly Margiola, c'est une chanteuse de rebetiko athénienne que j'ai rencontrée lors d'un concert dans un bar à Athènes et chez qui je suis allée quelques jours après pour qu'elle me chante des chansons, qu'elle m'en apprenne. Et elle était accompagnée de son ami Fotis et d'un autre musicien qui sont tous les deux joueurs de bouzouki et d'ailleurs tous les deux faisant partie d'un groupe qui s'appelle Rebetienne, qui apparemment ont tourné à l'international, bref. Et le rebetiko, c'est un style marqué par une signature rythmique qui peut être parfois particulière. Et là, notamment, dans l'extrait qu'on va entendre, ils m'apprennent comment compter une mesure en 9-8. Voilà.
Et tout de suite, on écoute.
To learn how to count the...
Yes.
The 9-8. It's a...
Yes, how... It's like... It's a... It's 4 and 5.
No.
No. It's 1, 2, like 3.
Seven, eight, nine. So that was a fast, a big one. The one we played was
après tous ces paysages sonores que tu nous as rapportés, Emma, après cet apprentissage de la musique grecque, eh bien, c'est un petit peu de ce paysage athénien, un peu de ce paysage hellénique que tu vas amener aujourd'hui dans le théâtre Cantor de l'ENS de Lyon, tout de suite avec un chant venu de l'île de Lesbos et plus précisément du petit village d'Agiassos, j'espère que je prononce bien, et cette fois que tu vas interpréter maintenant en direct. À toi, Emma.
Cette fois, je vous ai interprété une chanson d'un petit village d'Asie mineure en Turquie, à côté d'Izmir. Namie
Merci beaucoup, Emma. Merci pour ces magnifiques chansons, pour ces paysages et bien sûr pour ta présence. Merci, Antoine, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Rémi, Maë et Félix à la régie. Et puis Félix qui nous a spécialement aidés à préparer cette petite surprise. Surprise qui porte le doux nom de Marie Lécuyer, qu'on remercie également. Et merci à toutes celles et tous ceux qu'on oublie sans doute. Et tout de suite, une errance en direct avec Maë.
Merci, Occitane.